Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ma crypte. Je suis Dan et vous écoutez Creepy Story. Au programme de ce soir, une histoire de boîte étrange et les mésaventures d'une famille et de son chien. Commençons sans plus tarder avec cette première histoire qui est une libre adaptation d'une nouvelle de Robert Ketchum, que j'ai intitulée « Cette satanée boîte ». Bon allez, faut que je me concentre. Mes pensées partent en vrille dès que j'y pense. Je dois absolument me focaliser sur mes souvenirs avant de ne plus pouvoir le faire. Avant de ne plus en avoir. Ok. D'abord, je dois vous dire que je me suis encore posé ce matin et que je suis arrivé à 35 kilos pour 1m87. Je suis tellement faible, tellement fatigué. Il y a des moments où j'ai juste envie de m'allonger et d'attendre la fin. Mais je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance. Je me dois de partager ça avec vous. Il y a un verre de lait et un cookie à côté de moi sur la table, mais je sais que je ne vais pas y toucher. Pourquoi ? À cause de l'homme au costume anthracite et à la boîte qu'il tenait sur ses genoux ce jour-là. Le jour où tout a commencé. Nous étions, mes enfants et moi, installés sur un banc dans le jardin public juste en bas de chez nous. Ma femme avait besoin de travailler au calme, alors je lui ai proposé de sortir un peu avec les enfants, pour qu'elle puisse avancer sereinement. Je suis donc descendu avec Aline et Artyom, nos jumeaux. Ils étaient vraiment fusionnels, comme peuvent l'être les jumeaux. Nous allions souvent dans ce petit parc afin de profiter de la végétation et des structures de jeu qu'ils nous offraient. Il y avait des habitués qui tous les jours étaient présents pour, tout comme nous, prendre un bol d'air. Madame Martineau, qui gardait trois enfants de famille de notre immeuble. Madame Alnos, qui donnait ses restes de pain aux pigeons affamés. Catherine et Jean, qui accompagnaient leurs enfants après l'école. Il y avait aussi ce monsieur, toujours bien habillé d'un costume anthracite avec le même chapeau vissé sur la tête. Toujours assis sur le même banc, le même regard perdu, fixant sans arrêt le sol sablonneux du parc. Tous les enfants qui y venaient jouer lui disaient bonjour. Et lui, il leur répondait d'un signe de la tête. Cela faisait maintenant 3 semaines que le monsieur venait s'asseoir au parc tous les jours. Et depuis 3 semaines, il ramenait avec lui une boîte de carton. Une boîte très bien décorée de rouge, de violet et de bleu métallisé. Une boîte qu'il prenait soin de toujours déposer sur ses jambes, devant lui. Et puis, il restait là, assis, 2 heures, avec son même regard perdu. Il n'avait pas l'air méchant, alors on ne se posait pas de questions. Ce jour-là, celui où tout a commencé, il était encore une fois assis au même endroit, avec sa boîte sur les genoux, et il attendait. Aline et Artyom étaient assis à côté de moi, sur un autre banc, proche de celui du monsieur. Artyom me demanda ce qu'il pouvait bien y avoir dans sa boîte. Je lui répondis en rigolant que c'était sûrement un cadeau pour ses petits-enfants. Il ne m'a pas cru. Je me suis retourné vers Aline car elle voulait me dire quelque chose. Ça a laissé le temps à son frère pour se lever du banc et aller voir le monsieur au costume gris. Je me suis retourné vers Artyom juste au moment où il demandait au vieux monsieur de lui montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Il lui fit un grand sourire et commença à ouvrir le haut du carton décoré. Je me suis levé précipitamment et d'un pas rapide, je me suis dirigé vers l'autre banc pour aller chercher mon fils afin qu'il n'embête pas le monsieur. Malheureusement, c'était trop tard. Artyom avait déjà son visage au-dessus de la boîte ouverte et regardait dans le fond de celle-ci. Je me suis approché d'eux et je me suis excusé pour la curiosité du petit garçon. Le vieil homme me fit un large sourire et d'une voix rocailleuse que je n'avais jamais entendue auparavant, il me dit que ce n'était pas très grave et qu'à cet âge, la curiosité était une vertu. J'ai saisi Artyom par le bras et je l'ai tiré vers moi pour le ramener sur notre banc. Il avait du mal à revenir avec moi. Il avait toujours le regard perdu dans le fond de la boîte. Un regard plein de questions et les sourcils froncés lui donnaient un air presque adulte du haut de ses 10 ans. Lorsque j'ai enfin réussi à le faire s'asseoir sur le banc où nous attendait sa sœur, le vieux monsieur s'est levé et a quitté le parc en nous faisant un signe de la tête pour nous dire au revoir. Mon fils avait l'air triste de voir le vieil homme quitter le parc. Je lui ai ensuite dit que ce n'était pas très correct de sa part d'avoir fait ce qu'il a fait et qu'il ne devait pas recommencer à l'avenir. Puis je lui ai demandé ce qu'il y avait dans la boîte. Et là, il est resté muet, le regard perdu sur la terre battue du parc. Nous sommes donc rentrés à la maison, tous les trois, et j'expliquais à ma femme ce qu'il s'était passé un peu plus tôt. Elle aussi a expliqué à Artyom avec plus de calme que moi que ce n'était pas très bien de déranger et de se mêler de la vie privée des inconnus. Le petit est ensuite allé dans sa chambre pour jouer. Le soir venu, j'étais dans la cuisine pour préparer le repas. J'avais fait des steaks accompagnés de frites maison. Je savais que les jumeaux adoraient ça. Nous nous sommes mis tous les quatre à table et j'ai servi tout le monde. J'ai déposé l'assiette d'Artyom devant lui et je me suis assis, à ma place, autour de la table. Il a commencé par regarder son assiette, puis il a pris sa fourchette et se mit à piquer ça et là quelques frites pour les remettre finalement à leur place. Il a levé les yeux vers moi et m'a dit qu'il n'avait pas faim ce soir. J'ai tout de suite pensé que notre leçon au sujet de l'homme du parc l'avait vexé et qu'il était déstabilisé par nos remarques. J'ai eu un peu de peine pour lui et je lui ai dit qu'il pouvait aller dans sa chambre s'il en avait envie. C'est ce qu'il fit. Nous avons terminé le repas sans lui et Aline et sa mère ont débarrassé la table. Je suis allé dans la chambre d'Artyom pour le rassurer et je l'ai trouvé assis sur son lit, le regard dans le vague. Ça avait vraiment dû le perturber. Nous avons discuté quelques minutes, puis je l'ai bordé dans son lit pour qu'il puisse passer une bonne nuit réparatrice. Le lendemain matin, je me suis levé vers 7h pour préparer le petit déjeuner. Et les enfants se sont assis à table et Aline commença à dévorer son bol de céréales. Artyom, lui, n'avait toujours pas pris sa petite cuillère à la main. Pour toute explication, il me dit qu'il n'avait pas faim ce matin, qu'il avait un peu mal au ventre et qu'il préférait ne rien manger pour ne pas vomir en classe. Il sortit de table et alla préparer ses affaires pour partir à l'école. En rentrant après les cours, Artyom ne toucha même pas à son goûter, ni au petit chocolat que j'avais mis avec. Au dîner, ce fut la même histoire. Il me dit qu'il avait trop mangé à midi et qu'il n'avait pas faim, prétextant encore son mal de ventre. Ça ne m'aurait pas alerté plus que ça si ce manège n'avait pas duré 3 semaines d'affilée. Il ne touchait ni à son petit déjeuner, ni à son goûter, et il sautait tous les dîners. Il nous affirmait qu'il mangeait très bien le midi à l'école. Et puis un jour, ma femme a reçu un appel de sa directrice, qui nous demanda si notre fils n'avait pas de soucis à la maison. Elle ajouta qu'il ne voulait plus manger à la cantine le midi, confirmant qu'il se nourrissait beaucoup trop à la maison et qu'il n'avait plus faim à l'école. Quand ma femme m'a parlé de cet appel, je suis tombé des nues. Si ce coup de fil était vrai, ça voulait dire qu'Artyom n'avait rien mangé chez lui ou à l'école depuis 3 semaines. C'était inconcevable. Pourquoi faisait-il ça? Je l'ai pris à part après l'école et je lui ai demandé pourquoi il ne voulait plus rien manger. Il n'a pas voulu me répondre. Ce soir-là, il est allé au lit, le ventre vide encore une fois. Le lendemain, nous sommes allés chez le médecin pour qu'il ausculte Artyom. Il a voulu rester seul avec lui pour lui poser des questions et au bout de 30 minutes, le docteur nous a dit qu'il ne comprenait pas d'où pouvait venir le problème. Nous n'étions pas plus avancés. Il lui prescrit des pilules pour lui donner de l'appétit et des injections à faire tous les 2 jours. Artyom a commencé à prendre son traitement le soir même. Au bout de 3 jours, mon fils n'avait toujours rien mangé et devenait de plus en plus faible. Il avait perdu plus de 6 kilos et physiquement devenait de plus en plus maigre et émacié. Même avec ses médicaments, il n'arrivait ni à reprendre du poids, ni à avoir de l'appétit. Ce n'est que 2 jours plus tard que j'ai retrouvé les pilules sous son matelas. Il ne les prenait pas et les cachait dans sa chambre. Une incontrôlable colère m'envahit soudain et je descendis au salon où se trouvaient ma femme et les enfants. J'ai attrapé Artyom par les épaules et je l'ai secoué violemment en lui demandant pourquoi. Pourquoi il avait refusé de prendre son traitement et pourquoi il ne voulait toujours pas manger. Il se mit à pleurer de peur de me voir comme ça pour la première fois et me hurla que c'était à cause de ce qu'il avait vu dans la boîte du vieil homme au parc. Surpris de sa réponse, je l'ai lâché sur le sol du salon et je suis tombé à la renverse. Plus calmement, je lui ai demandé ce qu'il a pu voir dans la boîte pour réagir de cette façon. Il n'a pas voulu me le dire. Il est resté muet et il est monté dans sa chambre en gravissant péniblement les marches qui mènent à l'étage tant il n'avait plus beaucoup de force physique à force de perdre du poids. Je me suis relevé et je me suis assis sur le sofa près de ma femme en pleurs. Je lui ai juré de découvrir ce que notre fils avait vu dans cette boîte et qu'il avait mis dans cet état. Je suis monté pour retrouver Artyom dans sa chambre. Lorsque je suis arrivé devant le pas de la porte entrouverte, je l'ai vu assis sur son lit avec sa sœur. Il lui chuchotait quelque chose à l'oreille et quand ils m'ont vu arriver, Aline s'est levée du lit et elle est allée dans sa chambre. Son frère s'est couché et m'a dit qu'il voulait dormir, étant beaucoup trop fatigué. Je l'ai laissé tranquille. C'est depuis ce soir-là que sa sœur a arrêté de s'alimenter elle aussi. J'en ai déduit qu'il avait dû lui dire ce qu'il avait vu dans la boîte. Au bout de 2 semaines, Aline avait perdu elle aussi beaucoup de poids et nous avons hospitalisé Artyom, car il ne pouvait plus tenir debout sans aide. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il est décédé 3 jours plus tard. À son enterrement, le cercueil était 5 fois plus lourd que son pauvre petit corps squelettique. J'étais dévasté, d'autant plus que sa sœur suivait le même chemin. Elle était couchée toute la journée, ne pouvant plus se lever, ne supportant plus le poids de son corps. Un soir, après avoir discuté 2 heures durant avec ma femme, elle est montée dans la chambre de la petite pour l'aborder et lui souhaiter bonne nuit. Quand elle est descendue pour dîner avec moi, elle n'avait plus le même regard, ni le même appétit que nous pouvions avoir malgré tous ces événements. Dès lors, j'avais compris que ma fille lui avait parlé de la boîte et que je devais m'attendre au pire. Nous avons enterré ma fille et ma femme nous a quittés 2 mois plus tard. Je suis resté seul dans notre maison vide, vide de rire et de musique, vide de pas dans les escaliers et de disputes d'enfants. Je me suis laissé aller, je voulais les rejoindre et puis j'ai pris conscience de la situation et j'ai voulu retrouver le vieil homme et sa boîte. Je suis allé tous les jours dans le parc et je suis resté assis toute la journée à attendre de le voir. Au bout de 3 semaines, il est arrivé et il s'est assis à sa place, comme il le faisait par le passé, le temps où mes enfants et ma femme étaient encore de ce monde. Je me suis précipité vers lui et sans adresser la moindre parole, j'ai ouvert la boîte d'un geste violent. Il a été surpris mais n'a pas essayé de me retenir. J'ai regardé dans la boîte pendant un long moment puis il l'a refermée délicatement. S'est levé du banc et en partant me fit un simple hochement de la tête pour me dire au revoir. Il a quitté le parc et m'a laissé là, complètement perdu, déstabilisé et confus. Je suis rentré chez moi et je me suis couché dans mon lit. Ça fait 4 mois maintenant que je suis dans cet état, que je ne mange plus et ne sors même plus. Je sais qu'il me reste très peu de temps à vivre. Et tout ça à cause de ce que j'ai vu dans la boîte. Dans cette satanée boîte qui a foutu toute ma vie en l'air. Je n'ai plus rien à perdre, alors je vais vous dire ce qu'il y avait dedans. Lorsque j'ai retiré le couvercle de la boîte, j'ai pu voir que... Voilà une histoire bien étrange, mes chers adorateurs d'hémoglobine. Pour information, sachez que j'ai délibérément coupé la dernière partie afin de vous protéger. Vous ne pensez quand même pas que je suis suffisamment bête pour perdre la totalité de mes auditeurs tout de même? Je tiens énormément à vous. Ce qu'il y avait dans cette boîte restera dans la boîte, pour toujours et à jamais. Et moi, de pouvoir continuer à vous raconter des contes horrifiques. Non, je vous en prie, ne me remerciez pas. C'est tout à fait normal. Passons à la deuxième histoire du soir. C'est une légende urbaine qui a fait le tour de la planète avant d'arriver jusqu'à mon grimoire. Je l'ai intitulée « Le Doberman ». À la base, on ne voulait pas de chien. Il fallait s'occuper de lui constamment, le sortir 2-3 fois par jour, trouver une solution pour le faire garder pendant les vacances, sans compter la bouffe, les vaccins et les petits jouets pour qu'il ne s'ennuie pas. Et puis, finalement, ce sont les enfants qui nous ont fait changer d'avis à force de nous saouler avec leur envie d'avoir un compagnon canin à la maison. Nous sommes donc allés au refuge animalier le plus proche de chez nous, et là-bas, il y avait toutes sortes de chiens et de chats qui attendaient d'être adoptés. Et des Maine Coon, des Labradors, des Chihuahuas. Après avoir fait plus de 10 fois le tour des cages, mes enfants se sont arrêtés sur un petit chien noir et brun qui sautillait partout dans son enclos, comme pour nous montrer ce qu'il était capable de faire, pour nous amadouer. Le vétérinaire du refuge nous expliqua que c'était un bébé d'Obermann et qu'il avait besoin de trouver une famille pour bien s'occuper de lui. Ma femme n'était pas d'accord pour avoir un Doberman à la maison. Trop d'articles de presse faisaient mention de ces chiens dans la rubrique des faits divers, les mêlant à des histoires d'attaque ou de folie meurtrière soudaine. Mais les enfants ont insisté, et ils le trouvaient très mignon. Le veto nous a aussi informé qu'il allait beaucoup grandir vu la taille de ses pattes à son âge. Ça voulait dire que nous allions avoir un molosse à la maison. Rien que ça. On l'a finalement ramené chez nous après deux bonnes heures de discussion entre ma femme et mes enfants et moi. Il a tout de suite trouvé sa place. Les enfants l'ont appelé Twist, car il avait la drôle de manie de tourner en rond pour rien à une vitesse hallucinante. Les années passèrent et Twist grandit énormément. Ma femme s'était habituée à lui et m'avait même confié un jour qu'elle ne regrettait pas de l'avoir adopté. Ce chien nous avait apporté beaucoup de choses dans notre vie. Il était gentil avec tout le monde et aimait jouer avec les enfants. Ils ont partagé avec lui de super moments. Tout allait bien entre notre petite famille et ce grand chien à l'air féroce mais au cœur rempli d'amour. Un soir, nous étions tous dans le salon à regarder la télé. Vers 22h, il y a eu un bruit qui venait du premier étage. Ma femme me dit que ce devait être une des fenêtres des chambres qui a dû claquer. Nous étions en plein mois de juillet et la chaleur était très inconfortable dans l'enceinte de la maison. Donc nous ouvrions les fenêtres pour avoir un peu de courant d'air rafraîchissant. Twist s'est levé et il est monté au premier, comme pour aller voir ce qui se passait. Quand il est redescendu, il est resté quelques minutes devant les marches de l'escalier. Ma femme s'est retournée vers lui pour lui dire de venir nous rejoindre. Il n'a pas voulu nous écouter et il est resté au même endroit, sans bouger. On a continué à regarder le film en cours et à la fin, nous sommes levés du canapé pour monter nous coucher. En voulant accéder à l'escalier, Twist s'est levé et s'est mis à grogner contre nous. Il était différent. Son regard avait changé. Il était devenu comme noir et furieux. Ma femme m'a attrapé par le bras et m'a dit doucement que ce qu'elle craignait le plus venait d'arriver. Le chien devait être dans une phase de démence, comme ce qu'elle avait pu lire dans les journaux. Mais je n'y ai pas cru. J'ai voulu m'approcher de lui, le pousser pour pouvoir passer et ainsi aller dans nos chambres. Twist a montré les dents et dans un mouvement très rapide, il me mordit la main. Juste assez pour me faire mal, mais sans me faire saigner. C'était sa façon à lui de me prévenir que si je tentais une nouvelle fois de passer, il irait plus loin. Les enfants essayèrent eux aussi de passer, mais le chien au regard fou se mit à aboyer très fort en bavant et en montrant ses puissantes mâchoires aux gencives rouges. Je pris la décision d'arrêter de vouloir monter et ma femme alla coucher les enfants sur le sofa de mon bureau au rez-de-chaussée. Elle resta avec eux pour les rassurer. Moi, j'ai appelé notre vétérinaire afin de lui expliquer la situation. J'avais conscience de l'heure tardive, mais il fallait se faire quelque chose avant que Twist ne blesse quelqu'un. Il est arrivé quelques minutes après mon appel et lui aussi n'a pas réussi à le faire bouger de sa place. Il nous a proposé de l'endormir pour le déplacer, mais j'ai préféré éviter de lui infliger ça. Alors, nous avons tous investi mon bureau afin d'y passer la nuit. Twist est resté en bas des escaliers toute la nuit. Au matin, il est monté à l'étage. Nous avons tous été réveillés par des grognements et des aboiements qui semblaient venir des enfers. Je me suis levé en trombe pour aller voir ce qui pouvait se passer. Au moment où je montais, le chien qui paraissait enragé a déboulé de notre chambre pour me sauter dessus. Nous avons déballé tous les deux les escaliers. Arrivé en bas, j'ai eu le souffle coupé. Une intense douleur au dos me fit tourner de l'œil. J'avoue avoir perdu conscience quelques secondes. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais couché sur le dos. Twist était allongé sur le flanc gauche, à côté de moi. Il avait la gueule pleine de sang et était mal en point. Je me suis relevé et je l'ai soulevé pour le poser sur la table de la cuisine. J'ai tout de suite remarqué qu'il avait du mal à respirer. J'ai donc décidé de l'emmener en urgence chez le vétérinaire. Juste avant de partir, mon fils voulut monter dans sa chambre pour pouvoir se changer. Le chien, même à l'agonie, gesticula comme un démon. Je pouvais voir dans ses yeux de la peur en apercevant mon fils commencer à franchir les premières marches des escaliers. J'ai accéléré le pas pour le déposer dans la voiture. Après 10 minutes de route, je suis arrivé à la clinique avec Twist dans les bras. Le veto m'a fait passer en priorité. Dès le premier regard, il m'a confirmé que le chien était en train de s'étouffer. Il l'a posé sur la table d'auscultation et il lui a ouvert la gueule. Il a inspecté ses mâchoires pour se rendre compte qu'il n'avait pas la moindre coupure ou dent cassée qui pouvait justifier tout ce sang. La langue aussi était intacte. Il en a conclu que ce n'était pas son sang. En urgence, il a ouvert la gueule du chien le plus grand possible et il a fouillé dans sa gorge. Il releva la tête vers moi en même temps qu'il sortait de la gueule de l'animal 2 doigts humains. Un index et un majeur, arrachés à la 3e phalange. J'ai tout de suite pris mon téléphone pour appeler ma femme afin de lui dire de sortir de la maison avec les enfants et ceux sur le champ. Malheureusement pour moi, personne n'a répondu. Lorsque je suis arrivé devant la maison, la police était déjà sur les lieux. une ambulance embarquait 3 sacs mortuaires, un grand et 2 plus petits. Les policiers m'ont confirmé qu'ils avaient arrêté celui qui avait fait ça. Il lui manquait 2 doigts à la main gauche. Je ne le dirai jamais assez, mes chers Kripos. Vérifiez bien que vos fenêtres soient fermées avant de vous coucher. Ça vous évitera bien des soucis. Avant de nous quitter, j'aimerais vous faire une petite recommandation. Il s'agit du film « Maniac » de Frank Kalfoum. Sorti en 2013, scénarisé par Alexandre Aja et Grégory Levasseur, déjà auteur des remakes de Piranhas et de La Colline à des yeux, avec Elijah Wood dans le rôle de Frank Zito, le Maniac. Dans les rues qu'on croyait tranquilles, un tueur en série en quête de scalp se met en chasse. Frank est le timide propriétaire d'une boutique de mannequins. Sa vie prend un nouveau tournant quand Anna, une jeune artiste, vient lui demander de l'aide pour sa nouvelle exposition. Alors que leurs liens se font de plus en plus forts, Frank commence à développer une véritable obsession pour la jeune fille, au point de donner libre cours à une pulsion trop longtemps réfrénée, celle qui le pousse à traquer pour tuer. Ce film est un remake du Maniac de 1982 de William Lustig avec Joey Spinell. Wood y incarne un tueur en série psychopathe et névrosé. Quel tueur en série ne l'est pas? Il tue uniquement des femmes afin de leur prendre leur scalp pour les ajouter à sa collection. Pulsions qui sont dues à sa mère, une femme possessive et nymphomane. Tiens donc, comme par hasard. Tout le film est tourné à la première personne. On ne voit que les mains de l'acteur qui apparaît de temps en temps dans les miroirs ou dans les surfaces réfléchissantes. Les effets gore sont très bien réalisés et parfois même à la limite de l'écœurement. Attention toutefois, ce film est très glauque et d'une noirceur sans fond, à réserver à un public averti. Petit plus, la bande originale est signée Rob et c'est un petit bijou de synthwave, tout droit venu des années 80. Une vraie petite pépite. Le film est disponible sur Amazon Prime Video. Vous venez d'écouter Creepy Story. Ce podcast est écrit, interprété et monté par moi, Dan, via La Sentence Prod. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Deezer, Spotify ou encore. Laissez-moi des commentaires et des notes sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous, oui. Vous qui êtes toujours aussi nombreux à vous repaître d'histoires malsaines. Le podcast vient de franchir la barre des 50 000 écoutes, tout épisode confondu. Merci à vous. Vous pouvez aussi partager un maximum ce moment d'épouvante avec vos amis ou votre famille. Pour que ce podcast ait plus de visibilité. Et aussi aller liker ma page Facebook ou mon compte Instagram. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode de Creepyphobie et dans 15 jours pour Creepystory, où je vous raconterai des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. Et pour vous donner le sang à la bouche, je peux vous dire que les recherches que j'ai faites pour écrire cet épisode m'ont donné des cauchemars. À bon entendeur, bonne et sanglante nuit à tous.